Nous voulons prier encore. Seigneur, sonde-nous ce soir. C'est solennel, c'est toi que nous venons rencontrer. Fais-nous quitter nos ornières habituelles. Remets en cause notre manière d'être, de vivre, nos priorités à chacun. Seigneur, imprime de ta présence sensible ce temps que nous passons ensemble. Seigneur, tu veux nous donner beaucoup plus que trop souvent nous te demandons. Je te demande, Seigneur, que cette série de rencontres marque nos vies. Non de manière éphémère, mais pour l'éternité. Passe parmi nous, Seigneur, à ta manière et avec ta parole. Et visite-nous. Dans le nom du Seigneur Jésus. Merci. Amen. Nous allons donc reprendre la lecture de Daniel 6, 1 à 11, Daniel 6, 1 à 11, ou 2 à 12, en fonction de la version que vous avez sous les yeux. Daniel 6. Je lis au verset premier, « Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume, et il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. » Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense, écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquer ou supplier, implorer son Dieu. Un verset dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, en ce qui concerne la panoplie de l'Église de Jésus-Christ dans la personne de chaque croyant associé à ses frères et sœurs. Éphésiens 6, verset 18. Faites-en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Écoutez, je vais me débarrasser de cet outillage parce que
il y a un problème de champ de vision. Alors, on s'en passera. Voilà, je suis persuadé que ça va aller, on va travailler ensemble. Voilà. Nous avons considéré, donc l'an dernier, il y a déjà un certain nombre de mois, essentiellement deux des six indications pratiques concernant la vie de prière de ce vieillard, Daniel, largement octogénaire, avons-nous dit, telle qu'elle nous est présentée dans le chapitre 6, et plus particulièrement dans ces deux versets, ou plus particulièrement le verset 10 encore, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme cela nous a été rappelé tout à l'heure en introduction, nous avons d'abord évoqué l'importance de l'endroit de la vie de prière. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. L'importance d'un endroit, de notre chambre haute, à chacun, que nous avons donc longuement évoqué. Et puis, comme le texte le dit, nous nous sommes penchés sur la direction de la vie de prière de Daniel. Il priait jour après jour dans la direction de Jérusalem. Nous avons essayé, en sondant les Écritures, de comprendre pourquoi il le faisait, quelle était sa référence pour agir de cette manière et ce que cela pouvait bien signifier à la fois pour lui, à son époque, et pour nous, dans notre temps. Et puis nous avons donc le dimanche, dans notre dernière étude, abordé ce qui va nous intéresser d'une manière toute particulière ce soir, à savoir ce que j'ai appelé le rythme de la vie de prière, ou encore, pour préciser un peu, la discipline de la prière. Pourquoi cela ? Bien tout simplement parce que le texte le dit, trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il y a donc une double insistance, n'est-ce pas ? La dimension de ce rythme de trois fois par jour, mais aussi cette régularité qui s'inscrit dans le temps, et certainement pour ce vieillard sur des dizaines d'années, comme il le faisait auparavant. Discipline et persévérance. Importance donc de la régularité dans la vie de prière. Nous l'avons dit dans cette dernière étude, jamais Daniel n'aurait pu se passer de prière pendant 30 jours. Alors j'ai envie, je ne vous demande pas de me répondre maintenant, mais à quelque part, j'ai envie de vous poser une simple question. Si vous étiez présent lors de cette série de l'automne de l'an dernier. Je suppose, je l'espère, parce que c'est là le but, n'est-ce pas, qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez pris des décisions. Normalement, quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, Dieu nous parle de manière précise, il nous interpelle, il nous place devant des défis à relever, des obéissances, des alliances à contracter, et je suppose que face au programme de la prière et à ce que nous avons vu dans nos cinq études, certains d'entre vous ont dit « Écoute Seigneur, je vais changer ma manière de faire ». Je n'ai pas peut-être eu d'endroit jusqu'à présent pour cette rencontre régulière. J'ai mal compris peut-être certains aspects de la direction de ma vie de prière. Alors Seigneur, à partir de cette semaine, je veux vraiment rectifier le tir et je compte vraiment sur ta grâce. Je compte sur le secours puissant de ton esprit qui demeure en moi, qui est là pour me renouveler dans mes capacités, pour suppléer à toute ma vulnérabilité dans ce domaine. Seigneur, je m'engage. Et puis ce soir, c'est la soirée des bilans. Ça, c'est l'avantage, voyez-vous, quand on a des séries qui ne sont pas trop loin les unes des autres, sur le même thème, c'est qu'ensuite, on peut faire le bilan. Alors, je ne vous demande pas de me répondre, mais la question qui brûle mes lèvres, et vous la devinez, c'est par rapport à l'engagement que vous avez peut-être pris en octobre l'an dernier, où en êtes-vous aujourd'hui ? C'est une grande question. Parce que nous sommes obligés de reconnaître que trop souvent, nous commençons quelque chose. Et nous ne le terminons pas, nous ne le continuons pas, nous nous arrêtons au bout d'un certain temps. Et parfois, nous avons des pannes qui, dans certains domaines, malgré leur importance, peuvent durer des années. Il m'est arrivé bien des fois de donner des séminaires sur l'approche personnelle des Écritures et comment justement acquérir une discipline personnelle pour approcher les Écritures. Je crois même que nous en avons eu un ici, un des tout premiers. Et combien de fois ai-je rencontré des participants à ces séminaires qui, quelques années plus tard, me disaient être en panne. Ils avaient arrêté. Et nous convenions ensemble d'un fait, c'est que ça aurait été tellement fantastique pour eux si justement ils avaient pu dire quelques années plus tard, eh bien pendant ces cinq dernières années j'ai continué. Ça aurait fait toute la différence dans leur vie, n'est-ce pas? D'où l'importance de ce troisième point consacré donc d'une manière toute particulière à la question de la persévérance. Et j'aimerais, pour aller plus loin, là, au-delà de ce que nous avons dit dans la dernière étude du dimanche, que j'ai consacré tout particulièrement à répondre à une question pour laquelle j'avais été sollicité, la place du jeûne dans la vie de prière. Alors, nous avons pris le temps qu'il fallait, n'est-ce pas? Et donc, nous voulons maintenant aller plus loin dans ce domaine du rythme de la prière et j'aimerais simplement l'introduire par quelques illustrations pour qu'à quelque part nous puissions, si c'était nécessaire, nous engager cette fois-ci en comptant, comme nous le dirons, sur le Dieu de la persévérance, puisque Dieu s'appelle ainsi, il est le Dieu de la persévérance, pour que nous puissions, dans les années qui viennent, ne pas vivre de ces pannes qui jouent sur notre croissance. Ces stagnations qui, hélas, dans la dynamique de la vie chrétienne, sont autant de régressions, puisque la stagnation implique inévitablement le recul. Il n'y a pas de possibilité de se tenir simplement en arrêt, parce que nous sommes dans la vie chrétienne sur une sorte de tapis roulant, n'est-ce pas, sur lequel nous marchons à contre-courant, et si vous cessez de marcher sur un tapis roulant, ben il bouge quand même. Et ça, c'est tout notre problème, n'est-ce pas? Alors, j'ai sous les yeux cette petite illustration d'un événement authentique qui s'est passé un certain soir, le 20 octobre 1968, à 19h. où quelques milliers de spectateurs étaient réunis dans le stade olympique de Mexico. Il faisait presque nuit, les derniers coureurs du marathon trébuchaient sur la ligne d'arrivée. Et finalement, les spectateurs ont entendu le hurlement des sirènes de voitures de police. Alors les yeux se sont immédiatement braqués vers l'entrée du stade d'où venaient ces hurlements de sirènes, et les spectateurs ont pu apercevoir un coureur solitaire qui portait les couleurs de la Tanzanie. Il est entré en chancelant sur la cendrée du stade. Il s'appelait John Stephen Akawari et il était le dernier concurrent à finir le marathon. C'est 42 kilomètres et des poussières. Et il se trouve qu'il s'était blessé à la jambe lors d'une chute, elle saignait, elle était sommairement pansée et il boitillait en faisant le dernier tour de piste. Les spectateurs se sont alors levés et l'ont applaudi comme s'il avait gagné la course. Et après qu'il ait franchi la ligne d'arrivée, on lui demanda pourquoi il n'avait pas abandonné. Et il répondit très simplement, « Mon père, mon pays ne m'a pas envoyé à plus de 11 000 kilomètres pour que je commence la course. Il m'a envoyé à plus de 11 000 kilomètres pour que je la finisse. » Première illustration. Oh, la deuxième, qui est très belle, cela se passe dans un petit atelier d'art où quelqu'un observait les œuvres d'un artiste qui peignait des scènes et des personnages de l'Ouest, l'Ouest américain. Et un croquis inachevé sur son chevalet a fait penser cet observateur à l'histoire d'un garçon qui était assis à table en train de dessiner. Il se servait d'une plume et d'une bouteille d'encre noire et démontrait beaucoup de talent en dessinant un chien. Mais voilà qu'il cesse son travail avant d'avoir fait la queue de l'animal. Et sa mère voit le dessin et elle demande « Mais écoute, où est donc la queue ?» Et relevant la tête, l'enfant d'expliquer « La queue est encore dans la bouteille. » La queue est encore dans la bouteille. Autre exemple encore, c'est un homme politique britannique, Joseph Chamberlain, très célèbre, 1836-1914, qui a enseigné à l'école du dimanche à Birmingham, et il avait un verset préféré de l'écriture. Genèse 12:5, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et c'était devenu sa devise. Il disait ceci, n'est-ce pas, il faut deux grandes qualités pour réussir dans la vie. L'une est bien sûr d'avoir une bonne destination, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. L'autre est de continuer après avoir commencé. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Et puis enfin, une dernière qui m'a beaucoup impressionné. Elle émane de Frère André, le fondateur de Portes Ouvertes, qui a donné ce témoignage. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai lu la Bible. J'ai prié pour avoir la force et la joie de prononcer mon message. Donc, une réunion du soir. Mais rien ne se passait. Découragé, j'ai pris une revue et commencé à la feuilleter, à la recherche d'une certaine rubrique qui indique ce que font les gens connus et ce qui leur arrive. Là, un nom et un chiffre ont attiré mon attention. Des questions de Yul Brynner, qui allait bientôt jouer pour la 4000e fois le roi du Siam dans la pièce « Le roi et moi ». Et Frère André de continuer, comment 4000 fois le même rôle dans la même pièce ? Et il continue. comme si c'était la première fois, avec toujours la même force, le même enthousiasme, et cela pour une pièce de théâtre. Et moi qui parlais du problème le plus urgent au monde, je commençais à m'en lasser. Quelle honte ! Je suis tombé à genoux pour me confesser devant mon père et lui demander de me purifier de cette attitude. Ce soir-là, nous avons eu une réunion formidable. Et il y a une petite note. Yul Brynner est mort le 10 octobre 1985 après 4625 représentations. 4625 représentations. Voyez-vous, ce qui a frappé Darius dans notre texte de Daniel 6, c'est le sérieux de la piété de Daniel. Puisque, à deux reprises, Daniel 6, verset 16, et ensuite au verset 20, Darius précise que Daniel sert son Dieu avec persévérance. Il sert son Dieu avec persévérance. Et c'est très intéressant parce que il est à diverses reprises dans le Nouveau Testament question de la persévérance dans le cadre de la vie de prière. Avec cette particularité, c'est que dans la langue grecque du Nouveau Testament, les rédacteurs inspirés avaient le choix entre plusieurs termes, en tout cas au moins trois termes, pour évoquer la persévérance. Et quand il s'agit de la prière, généralement, les rédacteurs inspirés, l'apôtre Paul en particulier, mais aussi Luc dans les Actes, vont utiliser un terme très spécial qui indique l'assiduité, l'application, le fait de s'appliquer, le fait d'être assidu, de vraiment s'investir pleinement dans la vie de prière. Vous avez le texte de Actes 1, verset 14, acte 1, 14, tous d'un commun accord, persévérez dans la prière, ou encore tenez fermement à la prière, ou était assidu à la prière. Et c'est un terme que l'on va retrouver au chapitre 2, verset 42. Ils étaient assidu, infatigable, pourrions-nous dire, dans une attitude ou dans l'activité de la prière. Assiduité. On retrouve ce terme d'ailleurs un peu plus bas au verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. C'est exactement le même terme. Si vous allez au chapitre 6 et au verset 4, et nous continuerons à nous appliquer, c'est encore le même mot, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au service de la parole. Si vous allez dans Romains 12, 12, dans toute une série de petits impératifs, très lapidaires, extrêmement brefs, mais extrêmement riches aussi, Romains 12, 12, il est donc dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients ou soyez persévérants. Vous voyez, là, vous avez un autre terme, qu'il vaut d'ailleurs mieux rendre par persévérant que par patient, parce que ce n'est pas le même mot que dans Galates 5, 22, où le fruit de l'esprit est appelé la patience. Ici, vous avez un verbe particulier qui s'apparente à la constance, à la ténacité, au fait littéralement de tenir le choc, de tenir ferme sous le fardeau, sous la pression d'une situation difficile, par exemple. Voyez, alors, ceci est utilisé pour l'affliction, hein. Tenez le choc dans les situations d'affliction, acceptez de ne pas ployer sous le fardeau, demeurez ferme et constant sous le fardeau de l'affliction, et puis persévérez dans la prière ou soyez vraiment assidus, comme nous l'avons dit, soyez appliqués dans le domaine de la prière. Vous l'avez vu dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Veillez à cela avec une entière persévérance », c'est encore ce terme rendu par « assiduité », et cela a été rendu dans la transcription du Nouveau Testament d'Alfred Kuhn par cette locution « Maintenez avec persévérance l'habitude » de la prière. Il y a une idée aussi de régularité dans la prière, derrière cette expression, qui va revenir encore dans Colossiens au chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Encore une fois, le même mot. Tenez fermement à la prière. Soyez assidus dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Nous y viendrons plus tard. Vous avez ensuite un échantillon de ce que ça signifie dans les versets 11 et 12, où il est question de d'Épaphras, qui était donc délégué de l'Église auprès de Paul à Rome. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Et le verbe combattre ici, c'est un verbe dont nous connaissons en tout cas un mot très parlant dans la langue française, c'est l'agonie. Il vit l'agonie de la prière. C'était un terme qui était utilisé dans le langage sportif, sur le stade, n'est-ce pas, dans les compétitions. Et dans certaines compétitions, l'agonie pouvait aboutir même à la mort. Hein. Ça pouvait être dramatique. C'est cette idée qui est retenue ici, n'est-ce pas? Et il le fait afin que vous teniez bon. Littéralement, que vous soyez debout. Comme des hommes faits, c'est-à-dire adultes, mûrs, pleinement disposés ou pleinement satisfaits, mieux encore, de faire toute la volonté de Dieu. Pleinement heureux, satisfaits, persuadés de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Et ça, c'est une formule, nous ne cessons de combattre pour vous dans la prière, qui va revenir 14 fois sous la plume de l'apôtre Paul. C'est un homme qui sait, l'apôtre Paul, ce que c'est que d'être assidu dans la vie de prière. Alors, on a vu deux des termes, donc l'un qui souligne l'idée d'assiduité infatigable, de poursuite de la prière, véritable marathon aussi, n'est-ce pas? Course de longue haleine. Nous avons vu l'autre verbe, la constance, l'endurance, le fait de supporter le poids sans fléchir. Puis vous avez le troisième auquel j'ai fait allusion, c'est celui de Galates 5, 22. Mais alors qu'il est préférable de rendre par le mot patience, le fruit de l'esprit, c'est notamment la patience. Et là, c'est le caractère. C'est-à-dire, comment est-ce que nous nous conduisons lorsque nous tenons le coup dans une situation de difficulté, parce qu'on peut tenir le coup, on peut supporter le stress, mais on peut supporter tenir le coup en ronchonnant comme une locomotive à vapeur, n'est-ce pas? En ayant un sale caractère, en murmurant du matin au soir. Oui, on tient le coup, mais alors on rend la vie absolument épouvantable à tous ceux qui nous entourent. Alors, dans les Écritures, Dieu a trouvé bon de nous donner un troisième terme qui nous montre que dans toutes ces situations, que ce soit aussi dans le caractère inlassable de la vie de prière, que ce soit dans les circonstances les plus éprouvantes,
Nous devons faire preuve, littéralement, dit le texte grec, de longueur d'âme. La longueur d'âme, une âme qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Et c'est une magnifique image de ce long support par le caractère, n'est-ce pas ? Ripostant donc à l'hostilité par la douceur, à l'impatience d'autrui par notre propre patience, développant le fruit de l'esprit dans ces situations où Dieu nous demande d'être constant. Donc trois termes importants, mais avec ce terme tout à fait particulier qui est quasi réservé à l'approche de la prière dans la vie du disciple de Jésus-Christ, cette question d'assiduité, de discipline, comme nous allons le voir à quelque part même de méthode dans la prière. Et j'ai utilisé le terme méthode tout simplement parce qu'à quelque part, dans certaines mentalités évangéliques, il y a une sorte d'antinomie, d'opposition entre la prière, qui devrait être quelque chose de spontané, parce que spirituel, sous l'influence et dans l'onction du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Et la méthode qui sous-entend organisation, prise en main par l'homme à quelque part, n'est-ce pas ? Alors, j'ai relevé avec beaucoup d'intérêt, dans un ouvrage très intéressant, mais très peu connu sur ce thème, je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit encore publié, un paragraphe que j'aimerais souligner, que la prière, acte si libre, si spontané, cri du cœur, respiration de l'âme, soit soumise à certaines règles, qu'elle puisse être le fruit d'un exercice spirituel, d'une méthode. Voilà ce que ne peuvent admettre de sincères croyants pour qui la règle est la négation de l'inspiration. Il y a chez de nombreux croyants une conception erronée du rôle de la volonté dans la vie chrétienne et de celui de la grâce. Ainsi, on attend d'être mu, propulsé par la grâce. On attend des directions spirituelles précises. On attend des expériences sensibles, on attend de sentir l'inspiration, on attend de se trouver libéré, changé. On est devenu passif. Sous prétexte que l'on ne peut rien, on pense que c'est à Dieu d'agir en nous et de nous remonter comme une mécanique. C'est une caricature de l'action du Saint-Esprit. C'est un avilissement de la grâce. Le christianisme est la plus haute école de volonté qui soit au monde. À chaque instant, le Christ, dans les évangiles, pose la question « Veux-tu être guéri ?» Dans les épîtres, l'apôtre Paul multiplie ses ordres aux fidèles « Revêtez-vous, dépouillez-vous, mortifiez, rejetez, demeurez, regardez, tenez, prenez, obéissez, résistez, croyez, confessez, discernez, combattez, invoquez, glorifiez, souffrez, supportez, recherchez, soyez, etc. » Il faut donc avoir la volonté de prier. Cela veut dire que nous prendrons le temps d'être à nous-mêmes et à Dieu, et nous réserverons des heures pour la prière. C'est une nécessité vitale, comme manger, boire et dormir. Celui qui ne consacre pas un moment spécial à Dieu dans la journée renonce à la vie chrétienne. Nous sommes comme une batterie électrique qui a besoin d'être rechargée constamment pour donner de la lumière. Alors bien sûr, en ajoutant ceci, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, mais qu'après cette lecture, il faut le répéter, nous avons affaire au Dieu de la persévérance. Combien de fois il m'est arrivé de citer ce texte de Romains 15, 5 « Tu es le Dieu de la persévérance ». Je n'ai pas en moi la ressource de la persévérance. Elle est en toi. Je sais que, quand j'ai envie de quelque chose, je suis capable de déployer des trésors de volonté, d'énergie. Je suis capable de me faire mal, n'est-ce pas ? Mais je reconnais que j'ai vraiment besoin de ta grâce pour persévérer. Et Seigneur, je te la réclame, et je te la réclame vraiment avec confiance. J'ai confiance que je suis au cœur de ta volonté en
en te demandant d'être vraiment dans ma vie personnelle le Dieu de la persévérance. Et je veux donc m'engager dans un acte de volonté en m'appuyant sur toi, le Dieu de la persévérance, notamment dans le domaine de la prière. Cela sous-entend l'idée d'un combat, d'un but à atteindre. Et là, j'aime cette réflexion. On le dit souvent, et c'est vrai, mais peut-être pas dans le sens où nous l'imaginons. La prière est un combat. Mais ce n'est pas un combat pour que Dieu nous cède. Nous y reviendrons. C'est un combat pour que nous persévérions, pour que nous tenions ferme. C'est un combat contre la fatigue, contre le découragement, contre les déceptions, contre le doute, contre le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est un combat contre l'adversaire, contre la victoire de Satan par excellence, quand il nous pousse à dire « Je ne peux plus me tourner vers Dieu, il faut que je me résigne, ou bien que je le cherche ailleurs. » C'est Johnny, cette femme de Dieu, donc qui a tant souffert et qui, dans son grave handicap physique, est un sujet de bénédiction et d'encouragement pour tant de personnes handicapées dans le monde. Elle écrit ceci dans son livre consacré à la souffrance. « Pour que nos prières soient exaucées, nous devons marcher avec Dieu et être conduits par sa parole. Mais je crains que trop nombreux soient ceux qui aspirent à la puissance des prières de Paul sans vouloir la discipline de la vie de Paul. Nous avons tous été coupables, à un moment ou à un autre, de nous approcher de Dieu comme s'il était un grand distributeur automatique spirituel dans le ciel. Jetez une prière, il en sortira une réponse. Dieu n'est pas une machine, il est une personne. Et le regretté Francis Schaeffer de dire pratiquement la même chose, en des termes même assez proches, la prière est autre chose qu'un distributeur automatique dans lequel vous obtiendrez en échange de la pièce de monnaie requise un gobelet de boissons chocolatées évangéliques que vous ne manqueriez pas de brandir au vu et au su de tout le monde comme preuve de votre spiritualité. Bon, c'est important ce que nous voyons là, parce que nous vivons une époque d'où la discipline est de plus en plus exclue. Et il faut se souvenir d'ailleurs que dans cette courte description très ramassée de la fin des temps, sous la plume de Paul écrivant à Timothée, dans 2 Timothée 3, 2, 3, n'est-ce pas, il est dit donc les hommes seront égoïstes, amis d'eux-mêmes, littéralement, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, sans frein, sans discipline, sans maîtrise de soi. Ça, c'est une des fortes particularités de notre temps. L'homme, aujourd'hui, est déréglé. Déréglé. Il faut dire qu'il s'éparpille dans quantité de choses. Il commence beaucoup de choses, il termine très peu. Pourquoi ? Parce que c'est l'époque du carpe diem, cueille le fruit du jour présent. Si je cueille le fruit d'aujourd'hui, je vois pas à plus long terme qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et c'est un drame. Et c'est un drame qui se répercute dans nos vies d'église, où nous sommes de moins en moins persévérants, de moins en moins disciplinés. Allant, comme nous le disions tout à l'heure, parfois jusqu'à considérer qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très spirituel dans certains aspects de discipline. Alors on est très prompt à dire ça c'est du légalisme. Je ne sais pas si nous parlons de légalisme lorsque nous mangeons un bon repas, n'est-ce pas ? Il y a bien d'autres domaines où nous ne mettons pas du tout les mêmes étiquettes sur nos efforts.
Soyons prudents dans l'usage des termes pour ne pas voir du légalisme où se cache simplement de l'indiscipline. S'il est vrai que la connotation de discipline est plus présente dans le terme « disciple » en français qu'en grec. En grec, le disciple, c'est l'apprenti. Mais quand on apprend, hein, un bon apprentissage, ça sous-entend aussi un apprentissage d'une autodiscipline pour pouvoir ensuite fonctionner convenablement, n'est-ce pas ? Alors nous touchons ici à des éléments qui sont absolument des éléments clés. En faisant à partir de là cette remarque, c'est que la saine discipline de Daniel, développée tout au long des années, l'a aidé à affronter victorieusement ce qui est peut-être à considérer comme la plus grande épreuve de sa vie. Croyez-vous que Daniel aurait pu affronter cette épreuve de cette manière s'il avait eu une vie de prière quelque peu sporadique? Déjà, il aurait évité l'épreuve parce qu'il aurait fait la grève de la prière pendant tout le temps qu'il fallait, n'est-ce pas? Mais reconnaissons qu'un croyant faible dans sa vie de prière est abattu par la moindre contrariété, tombe dans le premier piège et ne résiste pas à la tentation. Pourquoi est-ce que nous sommes si souvent pris au dépourvu par les épreuves qui nous arrivent? Pourquoi sommes-nous si facilement déstabilisés? C'est parce que nous ne vivons pas assez la respiration de l'âme. C'est au niveau de notre relation avec Dieu que ça ne colle pas. 9 fois sur 10. J'ai cette belle illustration d'un soldat qui était accusé d'avoir communiqué avec l'ennemi. On l'avait vu sortir d'une zone où les troupes ennemies étaient en patrouille et on le conduisit donc devant le commandant et il se défendit en disant qu'il était allé à l'écart pour prier pendant 1 heure. Et le commandant de lui dire: « Mais est-ce que c'est une pratique régulière pour vous ?»« Oui, mon commandant. » »« Alors, sachez que vous n'avez jamais eu autant besoin de prière que maintenant. Agenouillez-vous et priez à haute voix pour que nous puissions tous vous entendre. » S'attendant à mourir sur le champ, le soldat tombe sur ses genoux. Il répand son cœur devant Dieu. Il fait monter avec ferveur d'humbles supplications pour obtenir l'aide de Dieu, sa confiance, il lui dit sa confiance, et il révèle ainsi qu'il avait consacré beaucoup de temps dans sa vie à prier. Et le commandant lui dit: « Relevez-vous, vous pouvez partir. » En ajoutant: « Personne n'aurait pu prier ainsi sans avoir passé beaucoup de temps à apprendre à prier. Les gars qui n'ont jamais fait d'entraînement sont toujours mal à l'aise quand vient le temps de la revue. » Nous devons le dire, n'est-ce pas ? C'est quand même dans nos situations d'épreuve que nous pouvons prendre la mesure de la maturité de notre vie spirituelle. Plus nous vivons une discipline spirituelle dans le domaine de la prière en particulier, moins nous serons pris au dépourvu, comme par traîtrise, lorsque la situation difficile va se présenter. C'est intéressant parce que c'est un peu ce que dit David dans cette prière confession du psaume 32, où au verset 6,
Il est écrit qu'ainsi, tout homme pieux, fidèle, te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Donc le temps convenable, ce n'est pas de temps en temps. Par exemple, dans Marc 14, alors que la mort de Jésus est très proche maintenant, dans Marc 14, versets 26 à 31, après avoir chanté les cantiques, les psaumes 113 à 118, le Hallel, comme on dit, ces psaumes de louange, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Or, nous savons, n'est-ce pas, ce qui est arrivé. Exactement, bien entendu, ce que Jésus avait dit. Pourquoi ? Parce que l'engagement de Simon-Pierre était un engagement purement émotionnel. Il ne reposait pas sur autre chose que cette dimension émotionnelle qui peut nous faire prendre pour un court temps des engagements extraordinaires, mais que nous n'allons pas pouvoir tenir bien longtemps. Pourquoi ? Parce qu'un véritable engagement, notamment, se fonde sur la prière. Et nous en avons la preuve un peu plus loin, versets 32 et suivants, à Gethsémané, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commence à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et il pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Voyez, engagement émotionnel, regardez le résultat au bout. Engagement qui repose sur le combat dans la prière, quelle différence. Différence énorme, n'est-ce pas ? Et j'aimerais ici souligner aussi que dans Daniel 6, la première réaction de Daniel ne consiste pas à se précipiter affolé chez ses amis. C'est extraordinaire la communion de l'Église de Jésus-Christ. C'est extraordinaire d'appartenir à une église locale dans laquelle on a des relations privilégiées les uns avec les autres, dans laquelle on s'aime, dans laquelle on sait que l'on peut partager, que l'on peut se téléphoner, etc., bon, que l'on peut se visiter. Heureuse l'église dans laquelle on le fait. Mais, néanmoins, cela cache des pièges. Et parmi ces pièges existe celui de prendre l'habitude de s'appuyer plus sur ses frères dans l'Église que sur le Seigneur. Et donc de prendre l'habitude, quand nous vivons les turbulences de la vie chrétienne, de nous précipiter sur le téléphone pour aussitôt partager avec quelqu'un.
Et ça, c'est le meilleur moyen de faire de graves erreurs dans notre vie chrétienne. Et j'aime cette citation de Spurgeon qui écrit ceci, « Il y a deux moyens d'obtenir du secours. L'un est de raconter sa peine à ses amis et d'être désappointé. L'autre est d'aller au Seigneur d'abord. » D'abord, ça ne veut donc pas dire que cela exclut qu'on aille vers les autres. Mais allons d'abord au Seigneur. On va y trouver un apaisement. On va y trouver la possibilité de prendre du recul. On va y trouver de premiers éléments de réponse. Le Seigneur va au moins avoir la liberté de mettre éventuellement, s'il lui plaît, le nom de telle ou telle personne sur notre cœur, nous orientant vers tel disciple de Jésus-Christ plutôt que vers tel autre, parce que nous ne connaissons pas les états d'âme de ceux vers lesquels nous allons au moment où nous sommes en difficulté. Peut-être ne sont-ils pas du tout à même de pouvoir écouter, encaisser, bien comprendre et bien éventuellement conseiller si cela est nécessaire dans notre situation. Donc c'est en allant d'abord vers le Seigneur, on permet quantité de réglages dans notre vie qui vont ensuite orienter toute la suite de notre situation. Donc c'est le plus court chemin d'aller d'abord vers le Seigneur. Dieu peut faire que vos amis vous aident ensuite. Cherchez premièrement Dieu et sa justice. La délivrance la plus sûre vient de la droite de Dieu. Ne vous adressez donc pas à tel ami si vous êtes dans l'épreuve, mais répandez votre âme devant Dieu par la prière. Les amis humains font défaut. Le muscle d'un bras charnel, quelque vigoureux qu'il soit, se brisera un jour et le cœur le plus fidèle peut faillir. Mais notre Dieu est éternel et tout-puissant. Qui s'est jamais confié à lui en vain? Où est l'homme qui puisse dire « J'ai regardé à lui, je me suis confié en lui et je suis déçu de mon espérance ?» Ne vous appuyez pas sur ceci ou sur cela. Vous vous déformerez vous-même et le bâton sur lequel vous vous appuierez vous transpercera. Appuyez-vous entièrement sur Dieu et comme il est partout, vous vous tiendrez debout en vous appuyant sur lui. Importance donc de se discipliner, de mettre du temps à part, jour après jour, pour prier régulièrement. Quelqu'un a eu cette formule, la prière n'est pas un élastique que l'on tend, mais un muscle qui se développe par l'usage. Et si vous avez eu des problèmes avec un genou, un coude ou que sais-je encore, luxé, voire fracturé, et qu'ensuite vous devez faire la rééducation, vous savez à quelle vitesse nous perdons notre souplesse musculaire et combien il faut de temps pour la retrouver. Un médecin disait que toute la musculature gagnée en un an se perd en 3 semaines et se regagne en 3 mois. Et ça veut dire qu'effectivement, si Dieu disait à quelqu'un d'entre nous ce soir, « Mon ami, tu n'as pas de discipline dans ta vie de prière. Tu pries un petit peu comme ça, tu chantes quand on a besoin ou quand tu es dans un certain état, etc. » Non, développe une musculature. Qu'elle ne s'attende pas à ce que ce soit facile. Si nous avons quitté une vie de prière disciplinée depuis des mois et des mois, ne nous étonnons pas si le travail de kiné dans le domaine de la prière prend du temps et douloureux, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous ayons récupéré une plénitude de capacité musculaire dans le domaine spirituel. Là aussi, n'est-ce pas? L'atrophie vient terriblement vite, n'est-ce pas? On le retrouve dans le domaine des dons. Cessez d'exercer les dons que le Seigneur vous a confiés et vous les voyez qui s'amenuisent et qui disparaissent. Et ils ne disparaissent pas toujours par la souveraineté de Dieu qui veut qu'on fasse autre chose, mais ils disparaissent plus d'une fois par notre paresse. par le fait que simplement, à un moment donné, nous faisons la grève, nous décidons de ne plus exercer, on prend du ralenti, et puis le ralenti devient de l'arrêt, et puis un jour on se retrouve, n'est-ce pas, hein, c'est comme ça que se termine la parabole des talents et des mines, hein. Celui qui avait enterré le seul talent, eh bien, on lui a ôté même ce qu'il avait. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est que ce que je cesse de faire fructifier, je le perds. Cessez de faire fructifier votre vie de prière et vous allez la perdre. Quelqu'un a donné ce témoignage quand j'étais jeune, nous n'avions pas l'eau courante à la maison, nous avions cependant une pompe à un des bouts de l'évier de la cuisine. Quand nous voulions boire, nous n'avions qu'à nous en servir pour tirer l'eau fraîche d'une source souterraine. Si vous avez vécu dans de telles circonstances, vous savez que quand on sert souvent d'une pompe, l'eau coule à la première poussée que l'on exerce sur le bras. Mais si on ne s'en est pas servi depuis un long moment, le niveau de l'eau a baissé, il faut donner plusieurs coups de pompe avant d'obtenir quelques résultats. Avant que l'eau claire ne coule, il faut d'abord amorcer la pompe, ce qui demande beaucoup d'efforts. Il y a un commentateur d'écrire, dans le domaine spirituel, rien n'est fait qui ne doive se refaire incessamment. Ce qui ne se refait pas aujourd'hui commencera demain à se défaire. Alors là, dans les aspects très pratique concernant la discipline, aussi quelques illustrations, ça parle mieux que quoi que ce soit. J'ai là l'histoire d'un pianiste, compositeur anglais, qui n'oublia jamais la discipline stricte de ses débuts. À 70 ans, il composa pour son propre usage une étude extrêmement difficile à jouer qu'il appela le sablier. Quand on lui demandait la raison de ce titre, il répondait « Tous les matins, je me fais un œuf à la coque pour le petit déjeuner. Dès que je l'ai placé dans l'eau, je me mets au piano et je joue cette étude. Quand j'ai fini, je retire l'œuf de la casserole. S'il est cuit à point, c'est que je suis en forme. S'il est trop cuit, il faut que je fasse des exercices pendant 2 heures. Et s'il est dur, je dois travailler d'arrache-pied pendant toute une semaine. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, j'en ai une autre ici, toujours dans le domaine musical. Vous voyez qu'il faut de la discipline dans le domaine musical, hein, pour faire quelque chose aussi, comme dans quantité d'autres domaines. Il est question de Rubinstein, qui usait avec assiduité d'un clavier silencieux, qui lui permettait donc de travailler dans une chambre d'hôtel sans déranger ses voisins. Il faut bien qu'on puisse travailler, surtout pour ces artistes qui vont d'hôtel en hôtel tout autour du globe. Alors lui, c'était donc le fameux clavier silencieux. Et il a fait un jour cette confidence: « Quand je laisse un jour sans toucher à cet instrument, je m'en aperçois à mon jeu. » Quand je le laisse 2 jours, mes amis s'en aperçoivent. Quand je le laisse 3 jours, le public intelligent s'en aperçoit à son tour. Et je suppose que si ça continue, même les plus bêtes s'en aperçoivent aussi. Alors, un prédicateur écossais qui a beaucoup travaillé avec Opération Mobilisation écrit ceci: « Le plus grand défi lancé aux chrétiens est de remporter la victoire le matin sur les couvertures de son lit. » J'avais compris. Bon, c'est vrai qu'il y a des tempéraments, des profils diurnes et d'autres nocturnes. Il y a ceux qui, pendant les premières heures de la matinée, ne savent pas très bien où sont les pupilles. Il y a ceux, au contraire, qui le matin sont vifs argent, mais ne leur demandez pas quelque chose de très grandiose à partir de 16 heures l'après-midi. C'est vrai. mais reconnaissons quand même qu'il est difficile de commencer une journée sans vraiment avoir un temps de rencontre avec le Seigneur. On n'aura peut-être pas la même durée de temps de rencontre si on est un nocturne le matin qu'on l'aura peut-être le soir avant de faire dodo, dans le calme de la nuit. Mais l'essentiel, c'est d'avoir cette assiduité. J'ai encore là un autre exemple très intéressant. C'est un Chinois qui a évoqué un étudiant anglais qui avait de la peine à se lever le matin. Et cet étudiant a donc imaginé tout un système branché sur le réveil, écoutez, qui lui ôtait automatiquement la couverture s'il ne se levait pas dans les 5 minutes suivant la sonnerie. Voilà. Je pense qu'on devrait inventer des lises éjectables, ce serait peut-être aussi bien dans ce domaine. Mais enfin, nous nous comprenons, hein, au travers de cet humour, l'importance aussi de décisions d'ordre tout à fait pratique, n'est-ce pas, pour nous aider dans ce domaine de la discipline. Donc, suggestion pratique, donner la priorité absolue à la rencontre avec le Seigneur. Il faut que nous dégagions du temps. Nous n'avons pas le droit de dire que la vie aujourd'hui est trop trépidante, que nous sommes engagés sur 1001 fronts, n'est-ce pas ? Nous avons un tas d'excuses. Vous ne croyez pas que nous pouvons quand même, à quelque part, essayer de simplifier un peu notre vie ? Vous ne croyez pas que nous, dans nos pays, nous avons une vie extrêmement compliquée, mais que nous nous compliquons à souhait ? Reconnaissons-le, nous nous compliquons nos vies à souhait. Et c'est vrai que des choses qui, au départ, à l'achat, sont superflues, deviennent très vite une nécessité absolue. C'est curieux, il y a une semaine, j'étais parfaitement capable de m'en passer. Aujourd'hui, si jamais on veut me loter, j'hurle comme un cochon qu'on égorge. Est-ce que c'est pas vrai ? Tout est une question de sens des priorités. Mais notre problème, c'est que nous ne savons plus vivre simplement. Il y a des obligations inévitables. Je vis dans le même monde que vous. Mais je dois reconnaître que je dois me battre continuellement pour garder dans ma vie une certaine simplicité, un certain dépouillement, sans lequel, dans l'encombrement, les priorités spirituelles peu à peu s'épanouissent. Et il faut, mes bien-aimés, que nous devenions droits de cœur, que nous devenions des êtres intègres, que nous apprenions à vivre dans la lumière et que nous cessions d'essayer de justifier notre médiocrité dans le domaine de la prière. On ne s'en sort pas quand on est trop gentil avec soi. Soyons plutôt gentils avec les autres, mais beaucoup moins avec nous-mêmes. Parce que souvent, on est capable d'être extrêmement exigeant avec les autres et extrêmement laxiste avec sa propre personne. N'est-ce pas ? Alors vraiment, je nous encourage, et je le dis pour moi-même, n'est-ce pas ? Plaçons-nous devant Dieu pour cesser de nous tortiller dans des justifications qui ne tiennent pas la route parce que nous ne sommes pas toujours prêts à accepter que Dieu mette le doigt sur des aspects en disant « ça tu peux laisser tomber ». Personne ne nous oblige à nous engager dans 36 domaines à la fois. Et pardon de le dire, même pas dans l'église locale. Que personne n'utilise ce que je viens de dire pour justifier ses paresses spirituelles au niveau de l'église locale. Mais néanmoins, je le dis quand même, parce qu'il existe de drôles d'habitudes, de véritables réunionnites dans nos vies d'église. Autant je visite certaines églises, et croyez-moi, j'en visite depuis des années, je visite des églises qui s'installent dans une gentille paresse spirituelle, autant je visite des églises dont j'ai l'impression qu'elles vont faire un infarctus dans les 48 heures. Parce que tous les membres vivent sous la tension permanente d'un programme. Mes amis, c'est le programme divinisé. Il ne doit plus y avoir de place pour la liberté de Dieu. Dieu doit se dire, mais comment est-ce que je vais faire pour être encore libre dans cette église ? N'est-ce pas ? Alors c'est à chacun de se placer devant le Seigneur pour définir devant Dieu les priorités fondamentales. Mes amis, de toute façon, une église qui ne prie pas, elle peut faire ce qu'elle veut, hein. Moi, je lui donne peu de crédit. Je bénis Dieu parce que lorsque nous avons démarré notre ministère en 69 en Bretagne, pendant 10 ans, nous avons vécu des choses merveilleuses dans le Seigneur, dans une église en Bretagne, comme responsable. C'était une église qui priait. Quand nous sommes arrivés, il y avait un noyau de prières qui était composé d'ailleurs de têtes blanches. Mais de tête blanche qui, comme Daniel, depuis des années et des années, avait une discipline personnelle dans le domaine de la vie de prière, dans le domaine de la libéralité, dans le domaine du témoignage, tout simple, tout humble. Mais il portait l'Église dans la prière. Et nous avons vu Dieu à l'œuvre. Et combien de fois j'ai béni avec Tina le Seigneur pour ces cadeaux extraordinaires que Dieu nous avait faits en nous donnant une église dans laquelle des hommes et des femmes nous donnaient envie de prier. Et je pourrais vous en raconter la manière dont Dieu a appelé au sein de l'église, dans la nuit de Pâques 71, par exemple, quelqu'un à son service, pendant que l'église priait, et ce que Dieu a fait, et tant d'autres choses. Alors mettons même dans nos vies d'église les vraies priorités à leur place. Je brûlais d'envie tout à l'heure, voyez, je parle avec mon cœur, de vous poser une question en introduction. Je ne vais pas le faire de manière directe, pour ne pas gêner quiconque. Mais je me suis posé la question, dans les minutes qui précédaient le moment du début de la rencontre, je me suis demandé combien de frères et sœurs assis sur les chaises étaient en train de prier pour que Dieu ouvre son ciel et nous visite par son esprit durant cette soirée. Je me suis posé la question. Pourquoi ? Parce qu'il fut un temps dans nos églises évangéliques où quand vous entriez dans la salle, c'était le silence. Pas un silence de cimetière, mais un silence qui était pénétré de la présence de Dieu, comme on le voit encore dans nos voyages outre-mer, dans certains pays, n'est-ce pas, où on a gardé ce sens de la préparation et de l'entrée dans la présence de Dieu. Et ce qui faisait que, quand démarrait la réunion, ça avait déjà commencé. Vous comprenez ? Ben, aujourd'hui, on se retrouve, ben, c'est vrai, on est heureux de se retrouver, c'est chic de se retrouver. Hein. Mais je suis désolé, il y a un temps. Il y a ce temps pendant lequel on se rassemble, on s'assoit, puis on prie, parce qu'on est dans le combat. Quelqu'un me demandait, je crois ce matin ou hier, je ne me souviens plus, est-ce que vous avez encore le trac quand vous donnez le message ? Je dis, c'est pas tout à fait le mot trac que j'utiliserai. Parce qu'avec les années, on a tellement eu de problèmes, on est tellement tombé dans des pièges, on a vécu tellement de situations chaque fois qu'on a eu à prendre la parole que On a compris à quelque part qu'on ne peut que se jeter dans les bras de Dieu pour démarrer une réunion. Qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ou c'est toi Seigneur ou ça ne marchera pas, n'est-ce pas ? Et en fait, après le trac, c'est le combat. Et maintenant, pour moi, chaque prédication est un combat. Et je peux vous assurer, demander à mon épouse, parce que nous partageons beaucoup à cet égard, surtout depuis qu'elle voyage d'autant plus avec moi, vous ne pouvez pas vous imaginer les combats spirituels qui précèdent et parfois accompagnent la prédication de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et c'est pour ça que nous sommes, nous, prédicateurs, quand vraiment nous le faisons à fond dans le Seigneur, nous sommes particulièrement sensibles à la vie de prière de l'église locale qui nous accueille. Nous sommes tout ouïes, parce que c'est d'une importance capitale. Et vous avez des week-ends de réunions qui sont à vue humaine, à côté de la plaque. Je dirais quelque part partiellement manquées. Tout simplement parce que il n'y a pas eu cette collaboration dans la prière. Ce fait que, déjà dans la journée, on pense à la rencontre du soir, n'est-ce pas ? Et puis on prie, on intercède, les uns pour les autres, pour le prédicateur, pour les enregistrements, parce que de problèmes avec tout ce matériel, hein ? Et puis on arrive le soir, on est dans cette disposition, Seigneur. On va pas parler du match de foot hier et du match de rugby de demain, ni du boulot aujourd'hui. Non, Seigneur, maintenant, on se prépare devant toi. Voyez la différence. Je fais un rêve, comme Martin Luther King. Je fais un rêve. C'est que nous retrouvions cette dimension-là dans nos vies d'église. Alors nous en ferons peut-être moins dans certains domaines, mais nous verrons davantage la présence de Dieu, parce que nous ferons davantage ce qu'il nous montre. Et ça, c'est beaucoup plus important. Écoutez ce témoignage d'un homme de Dieu qui a occupé d'ailleurs d'importantes fonctions avec de lourdes responsabilités dans une grande entreprise nationale. Je le connais bien. Et il a donné ce témoignage. Il y a 10 ans, à Pâques, donc ça fait plus maintenant, après un décès, des circonstances familiales douloureuses, je me suis tourné vers Dieu. Entre parenthèses, il nous cherche souvent par la souffrance pour nous mener à la conversion. Tout de suite après, j'ai ressenti une soif nouvelle et inextinguible de lire la parole de Dieu. J'ai dévoré ma Bible le matin de bonne heure. J'ai éprouvé le besoin de me lever un peu plus tôt pour me nourrir spirituellement. Debout à 5h30 le matin, que je sois en voyage ou chez moi, c'est pas un jeune qui dit ça, qui est dans la pleine force de l'âge, il avait déjà de lourdes responsabilités liées aussi à son expérience. Et il écrit, debout à 5h30 le matin, que je sois en voyage ou chez moi, je me garde chaque jour 1 heure de culte personnel, lecture de la Bible et prière. C'est une expérience quotidienne de 10 ans. Ceci dit, sans vanité ou orgueil, ma vie professionnelle est très chargée. Je suis tous les matins au bureau à 7h15, je suis de retour à 20h quand je ne voyage pas. Mais il ne m'arrive pratiquement jamais de manquer à mon lever matinal. Ce n'est pas par ma propre force, puisque cela date de ma conversion, mais c'est un effet de la force de Dieu. Les bénédictions que j'en ai retirées sont innombrables et extraordinaire. Il a été président d'un conseil d'église et plusieurs fois visité son église. En ajoutant simplement ceci, toujours par souci d'équilibre, c'est que notre assiduité, notre régularité, notre discipline dans le domaine de la prière, le fait que nous soyons attachés à ces rendez-vous quotidiens avec le Seigneur, ne doit pas nous plonger dans un désarroi profond dont l'ennemi profiterait si, hélas, un matin, nous avons une panne d'oreiller. C'est-à-dire que nous n'avons peut-être pas entendu le réveil sonner ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Parce que le problème, c'est que parfois, des croyants sont tellement alors attachés à l'importance de cette discipline qu'ils donnent à l'ennemi l'occasion de complètement les déstabiliser parce que leur discipline, à un moment donné, devient plus importante que le Seigneur. Et cela veut dire que le matin où ils n'auront pas pu rencontrer le Seigneur parce qu'ils se sont réveillés, hélas, trop tard, ils vont être culpabilisés. Et ils vont s'imaginer que la journée va obligatoirement aller de travers, qu'ils vont connaître quantité de tuiles, mais simplement parce qu'ils ne cultivent pas ce jour-là cette relation du matin toute particulière avec le Seigneur. Ça, c'est notre problème. Quand nous nous attachons à une approche méthodique des choses, la méthode, qui n'a rien de mauvais en elle-même, peut devenir une divinité. Le meilleur peut devenir le pire dans notre vie. Et ça, nous devons toujours nous en souvenir, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, nous le verrons, on peut se vanter tellement de ces méthodes et les étaler comme de la confiture sur une bonne tranche de pain alsacien, et puis tomber dans le piège de l'orgueil. Donc, veillons à avoir une discipline, mais ne nous laissons pas déstabiliser par la puissance des ténèbres quand il y a par moments des ratés. De la même manière qu'un étudiant d'une faculté de théologie qui avait été très touché par le ministère d'enseignement d'un professeur de passage remarquable, a voulu en savoir un petit peu plus sur sa piété personnelle. Il a fait ce qu'on ne doit jamais faire, mais que l'on fait quand même parfois. Il a essayé de voir ce qui se passait au coucher de ce serviteur de Dieu célèbre. Donc il est devenu un petit espion, il savait dans quelle chambre de l'établissement de la faculté dormait le professeur, et il a mis son oreille, en l'ouvrant au plus large possible, contre le mur, à l'endroit le plus stratégique pour bien entendre, pour essayer de saisir si cet homme avait une vie de prière, s'il passait beaucoup de temps. Il avait bien sûr sa petite image d'Épinal sur ce que doit être un homme de Dieu, simplement en référence aux biographies fantastiques qu'il avait sans doute lues jusqu'alors, n'est-ce pas ? Et il a entendu. Et il a entendu, et Dieu l'a voulu ainsi, ce soir-là, le professeur dire à peu près ceci: « Seigneur, je suis extrêmement fatigué ce soir. Alors Seigneur, je sais que tu ne m'en voudras pas. Maintenant je vais me coucher. » C'était à peu près ça. Il a vu ce que c'était qu'une vraie spiritualité. Ça ne veut pas dire que tous les soirs, ce brave professeur disait la même chose au Seigneur. Ça aurait été une autre forme de discipline, mais beaucoup plus problématique, n'est-ce pas ? Mais d'être attaché au Seigneur plus que, bien entendu, à nos propres systèmes, n'est-ce pas ? Je crois qu'il fallait aussi le souligner. Alors, nous allons simplement, à partir de là, entrouvrir la porte de la quatrième caractéristique, mais je vous laisse quand même cette poésie parce qu'elle s'adresse au chameau que nous devons être. Oui, des chameaux. Quand le soir tombe, le chameau s'agenouille et de son dos, son maître enlève le fardeau afin qu'il trouve le repos. Mon âme aussi, prosterne-toi et pour trouver un vrai repos, laisse le maître de ta foi enlever le soir ton fardeau. Renonce donc à le porter toute la nuit sur ton échine, si tu veux demain affronter avec ses travaux ses épines. Le chameau, dès le clair matin, s'agenouille et comme à l'écoute reçoit sa charge et plein d'entrain, il reprend à nouveau la route. Au pied du maître, dès l'aurore, reçoit ta charge journalière, il a mesuré ton effort, il te garde dans le désert. Soyons des chameaux. Discipline du chameau dans nos vies. Est-ce qu'il a deux bosses ou une ? Deux. Oh ben ça tombe bien alors. Alors, le point suivant. L'attitude. Parce qu'il est question dans ce texte d'attitude. Alors je vais juste introduire. Et je vais introduire, là aussi, par deux petites histoires. La première est une histoire de raccommodage. Il est question de deux épouses, de pasteurs, de responsables d'église, assises sous la véranda d'une maison canadienne, et qui conversent ensemble tout en raccommodant les pantalons de leur mari. « Je ne peux comprendre, dit l'une d'elles, pourquoi votre église est en pleine prospérité tandis que la nôtre ne l'est pas. »« Eh bien, répondit sa compagne, si vous étiez quelque peu observatrice, vous auriez remarqué que je raccommode les pantalons aux genoux tandis que vous en changez le fond. » Bon, bien entendu, tout dépend de ce qu'on appelle prospérité, mais ça, c'est une autre question. Et ça, c'est une histoire que je viens de découvrir et qui m'a impressionné. Il y a 4 jours, son père semblait aller aussi bien que d'habitude. Puis, voici 3 matins, il s'était levé de table après le déjeuner et était allé s'asseoir dans la salle à manger. Là, il avait pris sa Bible usée pour y lire un passage avant la prière. Sa tête s'était alors inclinée sur sa poitrine et son esprit s'était envolé. Jim était sûr qu'il était avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Pendant l'ensevelissement, Jim réalisa plus amèrement que jamais qu'il était le seul des 7 enfants, tous adultes et établis ailleurs, qui n'était pas prêt à suivre son père. Ici à la maison, dans l'ambiance familiale, ce dernier lui semblait encore étrangement près de lui et cependant comme séparé par un immense abîme. Il entendit les autres personnes remuer dans la maison et se dirigea vers la grange. Marchant droit devant lui, il arriva à l'extrémité de la prairie. Là, il s'arrêta tout à coup. En face de lui, dans la haie, il voyait la trace de 2 genoux. Il savait qui était venu prier là pour lui, en ce dernier matin de sa vie terrestre. Un instant après, ses 2 genoux étaient dans l'empreinte de ceux de son père. Et dans une prière ardente, son cœur brisé et contrit cédait à l'appel du Dieu de son Père. Il se releva et se mit à marcher de long en large, dans la joie d'avoir enfin trouvé la vie éternelle, puis il se hâta vers la maison. Tandis qu'il se tenait sur le pas de la porte, sa mère le regarda en face, et avant qu'il ait pu dire un mot, elle s'écria « Oh Jim, je suis si heureuse !» Et dans cette maison où les larmes devaient couler, la tristesse fit place à la joie que le monde ne peut comprendre. Daniel 6 nous dit ceci, 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Donc demain soir, nous allons tout particulièrement nous pencher sur cette question de l'attitude. Ici, elle est physique. Nous verrons ce qu'il faut en penser à travers l'examen des Écritures, très bref d'ailleurs. Mais nous nous arrêterons longuement sur ce que cette attitude physique suggère dans le domaine d'état d'esprit, dans le domaine spirituel, et qui est aussi fondamental, parce que je dois dire que, au fur et à mesure que Dieu a éclairé cette dimension, je me suis rendu compte que j'avais une compréhension trop limitée de la pédagogie et du sens de la prière pendant très longtemps dans ma vie avec Christ. Et que, à cause de cela, se priver de cette dimension que nous allons aborder était quand même très préjudiciable à notre croissance spirituelle et, je dirais, au bonheur de la prière. Je crois que quand on comprend cette importance de l'attitude spirituelle, c'est aussi un stimulant à vivre davantage la vie de prière, parce que il y a un aspect pédagogique de la part de Dieu extraordinaire de travailler sur nous et en nous lorsque nous prions. Je ne vous en dis pas plus pour que nous puissions vraiment nous discipliner à réfléchir à l'importance du rythme, de la discipline, d'une approche méthodique de la prière, sans pour cela que la méthode devienne une divinité qui nous voilerait la face de celui qui aime, que nous le rencontrions, que nous nous asseyions en sa compagnie pour beaucoup partager avec lui. Seigneur, tu as été durant ces moments le témoin de ce partage. Tu en as été, je le crois, par le Saint-Esprit, l'inspirateur dans la faiblesse de l'instrument. Et Seigneur, nous osons vraiment compter sur ta grâce et sur l'action puissante, profonde de ton esprit, pour que aucun, nul parmi nous ne passe à côté de ce rythme de la prière, de cette assiduité dans la prière, de cette application à la prière. Seigneur, donne-nous d'en saisir l'importance d'une manière telle que nous rechercherons plus de simplicité dans notre vie, que nous accepterons de nous dépouiller de toutes sortes de dimensions qui ne sont pas prioritaires, de certains aspects superflus, pour mieux pouvoir te rencontrer. Seigneur, tu sauras nous montrer à chacun. Et heureux serons-nous si nous pouvons faire un bilan dans quelque temps et que nous pouvons ainsi constater combien de choses auront changé dans nos vies personnelles, conjugales, familiales, professionnelles, ecclésiales. Simplement, Seigneur, parce que avec Daniel, comme Daniel, nous aurons pris cette sainte habitude de temps spécialement passé dans ta présence, à côté de ce dialogue permanent tout au long de notre journée, à bord de la voiture, dans notre cuisine, au travail, ce dialogue que nous pouvons entretenir avec toi. Alors mets ton sceau, bénis cette soirée, inscris-la dans nos mémoires, dans le tréfonds de nos cœurs, dans nos pensées, pour les orienter différemment, afin que nos comportements, nos attitudes, nos actes changent. Merci, merci de le faire. Nous t'en bénissons par avance. En Jésus-Christ. Amen.